bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro.
Et non.
Je m'appelle Hicham El Amouri. C'est le nom qui m'a été donné par mes parents il y a de cela une trentaine et des raouettes d'années. Nous avons tous des noms. Et les deux personnes qui sont à côté de moi ont également des noms qui leur ont été donnés par leurs parents. Il y a de cela, grosso modo, une trentaine d'années, voire un peu plus, voire un peu moins.
Ouais, moi, beaucoup plus, parce que je suis la plus mature de l'équipe.
Mm-hmm. Non, ouais, dans ton âme et ton esprit.
Dans ton âme, son esprit.
Et dans ma carte d'identité.
Je suis Emmanuel Victor Jean-Paul Hennebert. J'ai failli m'appeler Ambroise. Et je remercie mes parents de ne pas m'avoir appelé Ambroise.
Ah, je m'appelle Ise Marie-Véronique Brassel. Point.
Drôle de second nom de famille, point. Ben, alors, bon, apparemment, on dit les seconds prénoms. Et ben, moi, en fait, c'est Hicham Denis.
Voilà. Oh, Hicham oui. Denis.
Toi, tu sais, non?
Mais je crois mais que je
tu oublies. J'en pense
voilà,
que
c'est ça.
Les gens
oui,
oublient.
On oublie, on oublie.
On oublie, on oublie.
Vite. Un peu d'oubli.
Moi, je n'oublie pas.
Aussi,
je n'oublie jamais. et pour le. Pour l'anecdote, étant binational maroco-belge, c'est mon père qui m'a donné mon prénom européen et ma mère mon prénom arabe en fait.
Ah.
Alors que c'est, voilà, donc alors que c'est ma mère qui est belge et mon père qui est marocain. Donc,
ah parce que quoi, c'est une tradition de que c'est non. La mère qui donne le prénom marocain ou pas?
Non, je pense que ça s'est fait comme ça avec mon père dans un souci de future intégration, m'a donné un prénom marocain au cas où je voulais me faire appeler Denis Surin au lieu d'Hicham El Amouri. Pour ne pas être victime de racisme. Mais c'est pas comme ça que ça marche, donc j'ai sans doute été quand même, lol. Merci au white passing intense que j'ai, notamment depuis que j'ai les cheveux blonds. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien préparé.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est?
À part l'occasion de petites réflexions sur le racisme ordinaire.
Et systémique. et le crypto-racisme.
Le crypto-racisme.
Eh bien, il s'agit d'un podcast d'improvisation, d'un podcast où nous allons faire trois scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées pour le fun et la contrainte avec... Oui, un florilège de petits trucs marrants où nous allons nous passer la balle pour chacun, chacune présenter notre impro à tour de rôle, mais également surtout pour flex.
Allez.
Oui. Ou pas flex, ou peut-être s'humilier, je ne sais pas. Ou bien oui. Rappeler aux autres qu'il n'y a pas forcément besoin d'être ultra grandiose pour oser faire des choses. Pendant que Manu déconnecte tendrement une clé USB de son ordinateur
et oui.
Brancher un câble à la place.
Absolument. Et vous aurez la réponse à la raison de cette manœuvre dans la deuxième impro de cet épisode.
Oh.
Foreshadowing.
God damn it. Mais notre première... Enfin, avant de se lancer, comment ça va?
Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai fait un rêve où j'étais dans une grande, comment on appelle ça, une vente aux enchères de Vivienne Westwood, et j'en suis partie avec Myriam Akramgatas qui m'a sauvée de cette
c'est qui encore Vivienne Westwood?
C'est une couturière londonienne, mais qui est récemment décédée. Ah. Et à son âme.
Est-ce que c'était notamment une grande représentante du punk?
Oui.
Est-ce que quand c'était une vente aux enchères de Vivienne Westwood, est-ce qu'on vendait les parties de son corps décédé? Ou des œuvres à elle.
Des œuvres à elle.
Ah, je suis presque un peu déçu.
Ouais.
Ça aurait fait vraiment une bonne raison d'être sauvée de cette.
Non, c'est juste le côté extrêmement riche et je me sentais pas à ma place et Myriam m'a sauvée.
Ta place est chez les pauvres.
Oui.
Merci encore une fois, Myriam.
Ouais. On va sauver tant de gens.
Mais oui.
Mm-hmm. Sauf moi, qu'elle tabasse allègrement chaque fois qu'elle croise. Elle me croise. Oui, oui. Et à chaque fois, je lui demande « Mais pourquoi es-tu violente avec moi ?» Elle fait « Je sais pas, j'ai envie. »
Si vous aussi, vous avez des amis violents mais qui vous aiment, envoyez hashtag happy but...
Hashtag happy abuse.
Happy abuse. By friend.
Happy
sur
abuse by
les
friend.
Commentaires.
Dans les commentaires.
Mais du coup, je vais bien. Merci, Hicham.
Eh bien, Manu est en train de se faire du café, ce qui me fait me dire qu'elle ne va pas bien. Donc, je ne vais pas enfoncer le clou, je vais la laisser.
Et je viens de faire une semaine sans café.
Oh, félicitations.
Et donc, ça va mieux ou ça va moins bien?
Eh bien, je fais moins caca, À part ça, je crois que je vois pas de. Je pensais être plus fatigué, mais en fait, je suis pas plus fatigué. Donc, je pense qu'il y a un effet placebo au café qui enlève la fatigue. Oh
oui,
mais je m'apprête à activer cet effet placebo en me versant une tasse de café.
Oh, il se bientôt 30 ans, alors voilà. Ton caca, ça la fait rire, quoi.
Oui, mais c'était la plus mature, donc c'est pas grave. Eh bien, je pense que voilà, vous êtes, vous, cher public, êtes updaté sur nos vies respectives, entre la santé fécale de Manu et la santé et la vie interne onirique d'Ise, je pense qu'on est bien mis.
Oui.
Et on va commencer avec la première impro d'aujourd'hui qui nous est amenée par Ise.
Oui, alors j'ai hyper hâte. C'est une improvisation trouvaille du web. Trouvaille du web, qu'est-ce que c'est? C'est Ise, ou quelqu'un d'autre, hein, si c'est quelqu'un d'autre qui la présente. Mais, c'est Ise qui va sur Internet et qui cherche les sites les plus what the fuck et qu'elle trouve les plus intéressants. Et je vais vous présenter ce site web d'ores et déjà et ça va vous servir d'inspiration pour une impro. Est-ce que vous avez déjà rêvé de devenir hacker ou hackeuse?
Eh ben, en tout cas, c'est un truc qui me fascine.
Ouais.
Moi, pas spécialement, mais je me demande si je vois pas de quoi tu veux parler.
Eh bien, dans tous les cas, si vous voulez l'être, c'est possible en un clic sur hackertyper.com.
Ça me semblait bien,
oh mon Dieu.
J'adore ce site. On tape absolument n'importe quoi et ça fait genre qu'on est en train de hacker un système formidable et on se sent hyper, sent hyper puissant. On est là, ouais, je suis en train d'entrer dans la base de données, c'est formidable. Alors qu'on fait ZZA, prout, prout, prout. Enter.
Ah, la touche prout. Je vois que Manu et moi avons la même réflexion.
Un clavier custom avec une touche prout.
Custom
avec un petit vent comme ça sur ma barre d'espace.
Tu fais une macro prout sur ton, oui. Sur ton clavier. C'est bien.
Les typos prouteuses. Prototypeuse, je ne sais pas.
Oh là là.
En tout cas, vous allez être inspiré, pas par le prout, s'il vous plaît, par le hacker typer.
Bah, oh, écoute, c'est pas toi qui choisis ce qu'on fait.
Tout est source d'inspiration, non?
Oui, oui.
C'est vrai, tout est source d'inspiration.
On prend l'accident avec l'intention aussi.
Eh bien, dans ce cas, c'est parti.
Oui. Oui, aujourd'hui, ça se termine. Aujourd'hui, Jacques.
Non, j'ai peur.
C'est normal.
C'est une fois qu'on a fini, quel est le sens de notre existence sur Terre? On va où? Une fois qu'on a fait ça, c'est fini et c'est fait. Et après, on va où?
Mais on aura donné du sens à plein d'autres gens, Jacques. On aura fait trembler la machine, on aura fait trembler l'Empire, Jacques.
Mais Fibule, est-ce que au fond, en fait, tu vois, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on essaye de déprogrammer les toilettes coloniales que...
Jacques.
Une fois que ce sera fait, est-ce que ça a encore du sens qu'on se batte?
Jacques, il est temps que tous ces colons aient de la merde au cul, ok? Moi, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter avant d'avoir hacké le système et de renvoyer de la merde à chaque fois qu'ils tirent la chasse. Alors, soit t'es avec moi, soit t'es contre moi, Jacques.
C'est pas ça que je veux dire, tu le sais bien, arrête un peu. Bon, c'est pas grave.
J'ouvre mon laptop, Jacques.
Les gars,
ça y est, je suis rentré dans la machine, Jacques.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est urgent, le roi est en train de s'asseoir sur son trône. Je répète, le roi est en train de s'asseoir sur son trône,
vite,
c'est le moment d'agir.
Vite, on a qu'une fenêtre de 10 secondes.
Mon Dieu, ils ont ouvert un firewall. Il y a une glace noire qui est en train... Attends, ah non, ça va.
Attends, je déconnecte la clé USB. Ah. Doudoun.
C'est une réussite totale. Je répète, c'est une réussite totale. Le roi est mort dans sa merde. Je répète, le roi est mort dans sa merde.
Jacques, t'as streamé?
Oui.
T'as streamé, Jacques?
Oui, c'est fait.
On va être célèbre, Jacques. On va être célèbre, même si...
Quels sont nos vies maintenant?
J'entends la police déjà.
La merde police arrivait.
Donc le prout n'a pas été une inspiration.
Non, pas du tout.
Non, on est allé plus loin.
J'aime beaucoup.
Alors qu'il se met à neiger dehors. Voilà.
Oh, n'est-il pas poétique? Mais enfin, c'est pas possible, on est en plein printemps, voyons. Ceci est diffusé en plein printemps.
C'est vrai.
Avec mes pieds.
Ah, si ça te gêne, tu peux la baquer. Hein. Voilà. Parce que oui, pour une fois, nous enregistrons chez moi et il y a des chats on the loose.
Oui, il y a un chat qui s'est jeté sur la table au moment où le roi est mort. Tel un symbole défiant de félin.
C'est ça.
Il a fait « Oui, anarchie !»
C'est ça. Le chat noir de l'anarchie. Était,
et puis, il s'est roulé à mes pieds.
Et voilà.
Le dit chat. Le dit chat s'est roulé à mes pieds.
Mais donc c'est un site pour faire semblant d'être hackereuse. Hacker,
ouais. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai découvert ça grâce à une escape game dont je ne dirai pas le nom pour pas non plus spoiler
les,
le jeu.
Les coups de cœur. Ah.
Mais surtout, à un moment, on dit vous devez hacker tel sous-marin. Et on est là, oui. Et on commençait à appuyer sur des lettres très précises. Hein. Peut-être qu'il faut former le mot sous-marin en anglais. Finalement, on découvre qu'en fait, on peut appuyer sur n'importe quelle touche. Et là, c'était la fanfare. C'était « Waouh !» On a commencé à s'exciter. Comme le mème du petit chat qui a ses pattes
oh oui
sur un piano. Là. Bip, boop, bip, boop, bip, boop. C'était très drôle. Voilà.
Waouh.
Eh bien.
Eh
bien nous avons donné un aperçu de ce que pourrait être le monde si c'était le scatotalitarisme.
Oh,
voilà.
Le scatotalitarisme.
Voilà.
Ouh,
je pense que
c'est très joli. Treasury.
Ça reste toujours dans le thème, c'est bien.
Oh.
Dieu merci, nous allons passer à la deuxième impro de la journée du podcast de l'après-midi du moment où, en fait, auquel vous écoutez ce podcast.
Oui.
Vous amené par Manu et qui est un, on va dire, un changement de programme, en fait.
C'est et oui.
un séisme dans le monde dont on n'a rien préparé.
Mais oui, parce que depuis quelques mois, nous vous faisons une improvisère par mois. Mais en fait, notre frénésie productiviste nous a amené à anticiper les épisodes à un point où, en fait, nous n'avons pas pu écouter l'improvisère de février avant de pouvoir enregistrer celle de mars. Et donc, puisqu'on ne voulait pas tomber dans les affres...
Puisqu'on est en roue libre dans chacune des impros et qu'on rajoute trop d'infos, on fait genre, nous ne savons plus ce qui s'est passé la dernière
Exactement.
fois.
Exactement. Et vu que nous ne voulons pas prendre le risque...
Est-ce que toi, tu as une idée de ce qui s'est passé? Enfin, tu as une idée, mais...
Ah non, mais c'est plus une campagne. Maintenant, c'est un continent. Hein,
c'est plus une campagne.
Continent. Mais donc, plutôt que de parler de ce qui ne va pas arriver, nous allons parler de ce qui va arriver. Et je vous propose, cher public, d'écouter l'impro qui va suivre... au casque, dans un endroit bien tranquille où vous pouvez vous concentrer, parce que nous savons à présent que Hicham du futur prend soin de ses impros-ci, rajoute des petites réverbes, nettoie un petit peu et vous permet de bénéficier de chansons d'une grande qualité, parce que oui, l'impro qui vient est une chanson.
Yes.
Donc Hicham et Ize vont chanter sur une instrumentale gratuite tirée d'internet que
j'ai entendu Thierry d'internet et j'ai
ah oui
c'est un rapport avec Thierry Mascal okay.
Mais c'est un gars qui te propose de hacker des choses très facilement mais en fait rien ne se passe. Votre mot pour cette chanson, votre mot sera grizzly.
Oh, j'aime bien
Grizzly, donc une chanson avec le mot grizzly.
Est-ce que je fais
attention.
Un petit fun fact juste avant qu'on commence histoire de roue. Non,
allez,
je vais
faire l'épisode du trop d'infos.
Je le ferai après, pour ne pas...
Restons concentrés, Grizzly, une chanson, on n'a rien préparé, c'est parti.
Chaque hiver, j'hiberne pour me protéger du froid. Chaque été, je chasse pour faire quelque chose de plus que moi.
Grizzly, je chasse l'hiver, je suis grizzly.
Grizzly, je dors les chaque fois que je pars à l'aventure dans les montagnes, les gens sentent mon odeur et ils se cassent de peur, de peur.
Chaque fois que je marche, je griffe, je je suis Grizzly.
Grizzly, je dors l'été.
Grizzly,
je m'engraisse à chaque automne en prévision de mois difficiles.
Une goutte de miel, oh les babines. Une goutte de miel, oh les babines.
Mon pelage change de couleur à chaque fois que l'hiver approche.
Grizzly, je chasse l'hiver, je suis Grizzly. Chauffe-toi, c'est contre moi que tu combattras
contre
le froid.
Grizzly,
je
chasse l'hiver, car je suis Grizzly.
Grizzly,
je dors l'été, l'été, car je suis Grizzly.
Il y a eu des...
Est-ce qu'on chasse l'hiver ou on dort l'hiver?
Eh oui.
Un peu
c'était
des
un grizzly.
Deux,
c'était un grizzly anticonventionnel. Quoi.
Un grizzly confus.
Ah non, c'est genre je chasse l'hiver, genre je m'en vais de l'hiver.
Il y avait des doubles sens dans les paroles.
Smartos isos.
Et je dors l'été parce que l'été... C'est
j'adore
facile.
L'été.
J'adore l'été.
Ouais, ça faisait sens.
Si vous aussi vous aviez compris ça, dites-le nous en commentaire de la publication sur Instagram.
Pipou, pipou.
Hacker Instagram.
Et si vous ne hackez pas, on n'a rien préparé. Mais par contre, hacker YouTube et Spotify pour nous faire des vues. Non, je rigole. Vous en faites déjà assez comme ça.
Le fun fact que je me suis retenu de dire, c'est que pour leur hibernation, les ours, les grizzlies, ingèrent des pommes de pin qui leur font un bouchon. Les empêche de qui bloquent leur transit intestinal pour ne pas qu'ils se chient dessus pendant l'hiver.
Mais t'as pas fait un truc scientifique là-dessus?
Non, je crois que c'était un fun fact que j'ai balancé une fois, peut-être pendant un autre épisode, voilà.
Et oui, le fameux bouchon de sève et de...
Oui.
Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Oui.
Grizzly qui lèche au printemps. Pour
Grizzly.
Ça fait... peut-être...
Et puis pour le printemps...
C'est
l'épisode du caca. Voilà, c'est le printemps. Écoute, le caca, c'est de la fertilisation.
Le caca, c'est l'amour.
Le caca, c'est l'amour.
On répond le caca comme on répond l'amour. On répond l'amour
comme on répond le fumier qui permet aux moissons futures de pousser.
Oui, c'est juste.
Et la biodiversité
se nous séparant du caca, nous séparons de l'amour.
Oh.
Et je pense que c'est une...
transition parfaite.
Une transition parfaite pour l'improvisation qui va suivre, que c'est moi qui la présente et c'est une improvisation.
C'est moi qui la présente. Attends, excuse-moi, j'ai trouvé ça mignon la manière dont tu l'as dit.
Oui, il s'agit d'une impro marabout où Ize et Manu vont jouer une improvisation.
C'est nous.
C'est nous deux.
La dernière syllabe d'une réplique servira de première syllabe de la réplique suivante. Et pour faire une improvisation à l'histoire élaborée, aux intrigues complexes et challengeantes.
Ou pas.
Et le mot qui va vous inspirer sera noisette. Noisette. Et c'est parti maintenant.
Qu'est-ce que c'est dur d'être un elfe de nos jours.
Journée de travail après journée de travail, ça ne s'arrête jamais.
Mais, Noisette, est-ce que je gagnerai enfin mes petites clochettes.
Jette pas l'eau avant d'avoir rempli l'amphore. Fougère, il faut d'abord remplir l'amphore avant de jeter l'eau. Il faut d'abord remplir les journées de travail avant de pouvoir bénéficier des clochettes.
Êtes-vous bien en train de fabriquer les coques de noix, les petits elfes ?
Effectivement, nous sommes sur le point de tout boucler. Nous sommes presque dignes d'avoir nos clochettes.
Êtes-vous satisfait des coques de noix que nous avons déjà préparées, votre sérénissime ?
Simultanément, nous les avons dépecés et puis remplacés et puis nous voilà avec ce nectar.
Tardons pas trop à les accrocher aux arbres. L'automne est déjà là, le vent se rafraîchit et les feuilles tombent. Si les noisettes ne sont pas aux arbres, tout le cycle des saisons sera bouleversé. Allez hop, dépêchez-vous!
Vous avez raison, votre sérénissime, vous avez raison. J'avais simplement une question, puisque je m'appelle Noisette. Est-ce que je dois, moi aussi, me pendre à un arbre ?
Oh, vous êtes un petit comique, vous.
Vous trouvez ?
Je vais vous faire une petite faveur. Pour l'occasion, vous pouvez vous accrocher à un arbre.
Vraiment ? Tu me fais ça à moi ? Déjà que j'avais pas mal de noisettes à pendre, maintenant je te dois te pendre toi pour avoir mes clochettes. T'es vraiment cruel.
Elfe ou pas elfe, je pense que le plus important, c'est que ce qui est pendu soit mangé. Et je te l'ai dit, Fougère, je veux que ma vie se termine ici. Mais ne t'inquiète pas, je vais me pendre moi-même à ce noisetier qu'il y a là. Et joyeux Noël, hein, Fougère ! Et joyeux Noël, sérénissime !
Mais non !
Mais pendre comme suspendre, et c'est mais pas un nœud coulant et tout ça, on n'est pas là-dessus, c'est bon.
Mais c'est un suicide assisté de noisette. Ouais.
Est-ce que c'est un suicide si c'est... Oui, c'est vrai, c'est un suicide.
La noisette va se pendre jusqu'à ce qu'un grizzly est passant par là.
Un grizzly passant par là.
Non, dans mon histoire, Fougère vient la sauver.
Ou alors, noisette devient un nouvel arbre.
Oh, ah oui.
Ça me console pas du tout.
Noisette tombe et devient un noisetier. Et en fait, les elfes naissent
sont
des
les arbres. Les arbres sont des elfes. Je pense qu'il est. C'est peine perdue d'essayer de consoler Iseu. Elle trouve le cycle de la vie un peu tragique et c'est peut-être un peu vrai. De la même manière que les saisons passent et les vies se finissent, l'épisode passe et ils se finissent avec le crépuscule de leur vie, c'est-à-dire les coups de cœur.
Oui, oh, c'est beau ce que tu dis. T'as beaucoup de mots savants, je trouve, aujourd'hui.
Ah oui, wow.
Pour un épisode sur le caca, je trouve que...
Ah oui, j'ai dit quoi comme autre mot savant ?
Tu es le porte-parole du dictionnaire aujourd'hui.
C'est quoi mes autres mots savants ?
Je sais pas, t'as dit des trucs genre oniriques, des trucs de fou, quoi.
Ah oui, j'étale ma culture. C'est du flex. C'est du flex, je l'ai dit, il y a du flex. Et nous allons commencer avec le coup de cœur d'Iseu.
Ouais, eh ben c'est mon tour de flexer. Parce que j'ai des livres en coup de cœur, ce qui n'arrive jamais. mais en vrai, je vous ai déjà parlé la dernière fois de ma poétesse du moment, Renée Vivien. C'était un de mes anciens coups de cœur, pour rappel très rapide. Sappho 1900, poétesse lesbienne à la vie tragique et qui écrit avec son cœur et ses tripes. Et j'ai découvert récemment un livre qui s'appelle « Je suis tienne irrévocablement » aux éditions Bartilla, qui est tout simplement la compilation de sa correspondance avec son amoureuse entre 1900 et 1907, qui s'appelait Nathalie Barnet. Et Nathalie Barnet et René Vivien ont correspondu avec des lettres enflammées d'amour lesbien, hyper tragiques, où on sent qu'elles se faisaient chier parce qu'elles avaient que ça à faire, et vraiment leur amour débordait dans leurs lettres. Malheureusement, on n'a que le côté de René Vivien vers Nathalie Barnet, on n'a pas le retour des lettres. Ça, c'est dommage. Mais vraiment, cette correspondance est hyper chouette à lire parce qu'on se rend compte, du coup, que la poétesse écrit comme elle pense. Elle écrit ses poèmes comme elle pense à son amoureuse. Et c'est une belle manière aussi de voir un témoignage lesbien de l'époque 1900. Mmh. Je suis tienne irrévocablement aux éditions Bartilla.
Je me demande si le fait qu'on n'ait pas la moitié fait qu'en fait l'autre lui répondait oui. Ou un truc comme ça. C'est peu probable. À mon avis, ça devait bien, être, ça, clairement, ça s'entretient, ce genre de truc.
Oui, mais je pense.
Il y a le mystère de ne pas avoir la moitié de la correspondance. Ouais. Tu peux te dire, genre, si ça se trouve, en fait, elle a un langage ultra clinique et froid. Et c'est l'autre qui fait genre... qui déborde dans tous les sens.
Mm-hmm.
Un peu rigolo.
C'est marrant.
Ouais, c'est très chouette. Mais du coup, j'ai acheté un recueil de poésie de Nathalie Barnet. C'est pas ses lettres, mais elle écrit aussi très lyrique. Donc, on peut estimer qu'elle se répondait un peu plus ou moins sur le même ton.
Waouh.
Là, c'est mon coup de cœur.
Nathalie Barnet aussi était poétesse.
Poétesse et actrice.
Oh, eh ben.
C'est l'époque Colette, Sarah Bernard, tout ça.
Les la liberté dans l'intellectualisme.
Et oui.
Oh là là. Manu, quel est ton coup de cœur ?
Eh bien, mon coup de cœur, alors c'est un coup de cœur un peu ambivalent pour une série que j'avais déjà vue et que là, je suis en train de revoir, qui s'appelle Transparent. Alors, Transparent, c'est une série qui a commencé à être diffusée en 2014, qui est disponible sur une plateforme de streaming bien connue, d'une des personnes les plus riches du monde, ce qui n'empêche pas que cette personne est très controversée sur plein de points, mais ce n'est pas le sujet de mon coup de cœur. Donc, mon coup de cœur, c'est cette série qui est créée par Joey Soloway et qui retrace, en fait, qui nous plonge dans une famille qui est une famille juive assez riche de la côte ouest des États-Unis. C'est assez important dans le déroulé. Et le père de la famille, en fait, dès le deuxième épisode, fait son coming out trans à ses enfants. Mort est en fait Maura. C'est une femme trans et la série... Alors, à la fois, nous plonge un petit peu dans ce parcours de transition d'une personne qui a... je crois que le personnage a une soixantaine d'années au moment de sa transition, ce qui, je trouve, est assez chouette parce qu'on a souvent l'image d'une transition en début de vie. Mais en fait, il y a plein de personnes qui transitionnent tard dans leur vie parce qu'en fait, elles n'avaient pas la place de transitionner plus tôt. Et je trouve ça très chouette de renseigner ça et de célébrer ça. Mais en plus, c'est une famille vraiment très compliquée et où, du coup, qui cultive le secret depuis longtemps. Et alors, on nous dit à moitié que le fait que la mère, du coup, qui a pris le rôle de père pendant longtemps, n'ait pas pu assumer sa transidentité. Ça a amené aussi une couche de secret et une couche de... Voilà, parce qu'en fait, l'autre mère était très au courant de ça, mais faisait comme si ça n'existait pas. Et puis, il fallait trouver à chaque fois des... Parce qu'il y avait genre des week-ends où Maura partait faire des espèces de camps, comme ça existe aux États-Unis, où en fait, c'est des cross-dressers, donc des travestis. Et où on voit aussi qu'en fait, entre les communautés travestis et transgenres, il y a parfois des rivalités assez féroces. Voilà. Et donc, en fait, le coming out de Maura amène petit à petit à lever tous les secrets de famille et met en crise cette famille voilà. Alors, c'est une série qui à la fois, je trouvais, est très belle, qui est très, très bien jouée et où, en fait, chaque personne de la famille a un rapport au corps, à la sexualité et se retrouve plus ou moins dans cette espèce de spectre LGBT+. Au premier épisode aussi, il y a une des filles de la famille qui, en fait, quitte son mec pour se mettre avec une meuf avec qui elle était, de qui elle était amoureuse étant jeune, mais elle ne l'a jamais assumé et elle décide aussi d'assumer cet amour et c'est très, très bien reçu par la famille. Donc, il y a aussi plein de choses comme ça. En même temps, déjà, c'est vraiment une histoire de riches et on sent que ces personnes ont énormément d'argent et ils ont un peu des problèmes de riches. Ce qui, je trouve, parfois est un peu... Enfin, moi, en tout cas, ça m'empêche toujours de m'identifier parce qu'on se dit oui, mais en fait, en tout cas, ma vie ne ressemble vraiment pas à leur vie et donc mes problèmes ne ressemblent vraiment pas à leurs problèmes. Ouais. Et puis, c'est un homme cisgenre qui joue cette femme trans. Alors, en même temps, on est en tout début de parcours de transition de quelqu'un qui a encore un passing très masculin. Et qui vit ça. Et donc, ça pose cette question hein, de est-ce que des femmes trans doivent jouer des femmes trans. Là, je trouve que la question se pose. En même temps, c'est très bien joué. Je trouve que c'est très fin. Et en tout cas, là, j'ai revu la première saison. Et je trouve que ça amène aussi des questions, des réflexions sur qu'est-ce que ça peut être un début de transition qui sont très intéressantes. Le rapport aux toilettes genrées, mais aussi le rapport à la vie quotidienne, le rapport à l'affirmation de soi, à toute cette espèce de... de cercle large qu'il accepte pas forcément, de cercle social large qu'il accepte pas forcément, et donc tout le trajet par rapport à ça. Donc voilà, donc moi je trouve que globalement ça vaut vraiment la peine d'être vu, Transparent, même si ce n'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui amène avec beaucoup de finesse et de tendresse des thématiques très importantes. Voilà. Désolé pour le côté un peu fouillis et foisonnant de ce
coup. Voilà,
mais voilà.
Vu le coup de cœur pour moi de cette semaine, je n'ai pas jugé.
Je dirais même de cette saison. Ils sont larges et mais très intéressants, mais larges et foisonnants.
Mais merci Manu. Manu.
Et toi, Hicham, quel est ton coup de cœur ?
Mon coup de cœur, c'est pour un jeu vidéo et que j'ai.
Quoi ?
et sur lequel en fait j'arrive pas à faire un truc court parce que en fait j'essaye de résumer l'environnement, le délire, le narratif et les mécaniques. En fait c'est très compliqué parce que c'est très dense, donc je sais pas comment je vais faire, mais on va tenter le coup. J'ai essayé d'écrire un truc et c'était beaucoup trop long. Bref, je vais vous parler de Against the Storm, qui est un peu le jeu auquel qui est en train de me bouffer mon temps ces derniers temps.
Oui, moi aussi un peu.
Ah, j'ai contaminé Manu.
Ah ben, non, cette fois-ci, je l'ai acheté sans t'avoir...
Ah oui, oh marrant ça.
Pour une fois.
Ah oui, c'est vrai. Oui, trop drôle. Mais donc, c'est un jeu développé par Eremite Game, qui est sorti le 8 décembre 2023, donc assez récent. C'est un jeu qui mélange deux types de jeux, qui mélange du City Builder, donc à la... je sais pas moi, un mélange de Warcraft sans le combat et de SimCity et du roguelite, donc de la génération procédurale et des petites parties courtes pour du city building. Mais et c'est dans un monde de fantasy, en fait un monde où il pleut tout le temps, où il y a une sorte une tempête qui menace en permanence le monde, sauf dans une sorte de bastion basé sur une technologie perdue qui s'appelle The Smoldering City, donc la cité ardente, dirigée d'une main de fer par une reine autoritaire et impatiente, mais très ambitieuse. Et en fait, cette tempête recule de temps en temps pour quelques dizaines d'années, et c'est le moment où, du coup, la cité essaye de recoloniser un peu la campagne pour récupérer des ressources, peut-être essayer de refondre les sceaux qui la permettaient de faire reculer cette tempête jusqu'à ce qu'elle revienne et engloutisse tout et que la cité se replie sur elle-même, etc. Et donc c'est un setting de fantasy où il y a plusieurs races, il y a des humains, il y a des castors, il y a des lézards, il y a des harpies, il y a des renards, chacune avec ses forces, ses faiblesses, ses besoins, ses préférences, etc. Et donc en fait comment ça se passe, c'est que quand cette tempête recule, il y a une map qui se révèle et on va coloniser cette map pour aller dans différents biomes et démarrer des petites colonies au milieu des bois. Et il y a plein de trucs aléatoires, genre quelle race on a sur cette colonie, c'est aléatoire, quelles ressources apparaissent sur la carte, c'est aléatoire, quel bâtiment on va avoir accès, c'est aléatoire. Et donc l'idée étant de dans chaque petite colonie de récolter des points de réputation le plus vite possible, parce que la reine s'impatiente et que si on traîne trop, en fait, on se fait défoncer la gueule. Et donc, c'est un échec et il faut refaire une autre colonie, etc. Et l'idée étant d'aller le plus loin possible de la cité ardente pour idéalement refondre les sceaux et basiquement dans le gameplay, en fait, de construire des villes le plus efficacement possible en tirant parti de ce que attendent les peuples, des ressources sur place, des événements, et en fait on lutte contre l'hostilité de la forêt, qui est une mécanique où il y a différentes saisons, dont une saison très méchante qui s'appelle la saison des tempêtes, où tout d'un coup la musique change, il pleut, il y a du tonnerre, tous tes villageois ils sont genre qu'est-ce qu'on fait là, et si ils sont trop malheureux ils se barrent ou ils meurent. Et donc voilà, c'est très chouette, c'est très addictif. C'est quand on arrive à commencer à bien jouer, on arrive à faire des settlements en une heure et demie, quelque chose comme ça. Mais au début, c'est genre 2-3 heures par cité. C'est un peu genre « Oh mon Dieu !» Mais c'est très bien fait. C'est un très beau jeu, en fait.
Ouais,
avec
c'est très joli, je viens de regarder. C'est
très belle musique aussi. La musique est super, avec plein de leitmotifs qui se remettent. Et voilà. Donc, Against the Storm, un jeu dangereux, je pense.
Oui, un puits à temps.
Un puits à temps, oui. Mais si on se limite à une... Je fais une ville, et c'est bon.
Ouais.
C'est pas mal.
C'est déjà quelques heures, mais c'est pas mal.
Ouais.
Oui. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que malgré qu'énormément de choses sont générées aléatoirement, eh ben on n'est pas bloqué. Il n'y a pas un truc où on se dit « Ah, mais en fait, je devrais avoir ça
souvent
pour gagner. »
Souvent, des solutions,
mais,
en fait. Ouais, si tu te plantes, c'est que c'est ta faute, généralement, parce qu'il y a toujours une manière de s'en sortir. Il y a le commerce, ou alors il y a de faire en sorte que tes villageois soient très heureux pour gagner de la réputation par ça, ou alors de faire des événements pour remplir ça. Et il y a plein d'événements ou de trucs spéciaux qui vont changer ta façon de jouer. Genre récemment, je suis tombé sur un truc où tu pouvais pas avoir des ordres de la reine qui te permettaient de gagner des points de réputation, donc tu dois te débrouiller avec le reste. Enfin bon, il y a plein de trucs, c'est très chouette. Il y a le narratif est très intrigant, c'est très très joli, très très bien fait à vos risques et périls. Et bien voilà, poésie, série sur la transidentité sur des grosses plateformes ultra capitalistes, jeux vidéo qui accaparent votre attention dans un narratif très chouette. C'est beau, hein.
Plein de choses.
Ouais, ouais, oui, c'est plein de choses. À nous trois, nous faisons un panel, un paysage culturel tout à fait
en parler de riche. De hacking, d'ours et de
proutes.
j'allais dire et de proutes. D'humour de proutes
et de caca.
Oui, voilà, je pense que ça résume bien la vibe de on a rien préparé, à la fois immature et très ambitieux culturellement.
Oh wow.
Et je pense que ça clôture cet épisode de cette semaine. Et nous vous souhaitons la semaine prochaine avec une invitée.
Oh,
une
oui.
Invitée, je pense, on peut dire énergique.
Oui.
Oui.
Énergique.
À sa manière.
À sa manière. Ok. J'espère pas qu'elle entend ça.
Elle entendra ça.
Excellent. Eh bien, à la semaine prochaine. Au revoir, Manu.
Excellent. Au revoir, Hicham.
Au revoir, Iseu.
Au revoir, Hicham.
Au revoir, les auditeurices.